Basket 85. Basket 85, le seul podcast consacré à l'actu du basket en Vendée, en partenariat avec le comité départemental de Vendée Basketball.
Bonjour à tous et bienvenue dans Basket 85. Vous le savez, désormais, tous les mardis, on a rendez-vous ensemble pour parler basket en collaboration avec le comité de Vendée. Aujourd'hui, on traverse l'Atlantique, direction les États-Unis et plus précisément le Mississippi pour interviewer une Vendéenne qui vit son rêve américain, Mélissa Guillet. Basket 85, épisode 4, c'est parti!
Le podcast vendéen.fr présente Basket 85.
C'est l'une des fiertés du basket vendéen. Elle a fait ses premiers pas sur les parquets d'Aisnay avant de passer par La Roche-sur-Yon et de quitter le département pour continuer à grandir. Aujourd'hui, elle vit son rêve américain du côté du Mississippi et nous fait le plaisir d'être dans l'émission malgré des journées très chargées. Mélissa Guillet est avec nous dans Basket 85. Bonjour Mélissa.
Bonjour. Bonjour.
Je dis bonjour, mais moi je devrais dire bonsoir puisqu'il y a un décalage horaire, on va y revenir. Tu vis aux États-Unis. Est-ce qu'avant de parler des États-Unis, tu peux nous rappeler un petit peu ton parcours et notamment les débuts en Vendée?
J'ai commencé le basket du coup à l'âge de 5 ans parce que j'ai mes parents aussi qui sont basketteurs et mon grand frère à Aisnay. Donc j'ai fait tous mes débuts là-bas. Ensuite, je suis partie à La Roche-sur-Yon pendant 2 années et dans lequel après j'ai été recrutée au Pôle Espoir Basket à Nantes. Donc j'ai fait 3 ans au Pôle Espoir à Nantes et suite à ça j'ai été sélectionnée à l'INSEP pendant 3 ans aussi. Donc j'ai commencé à goûter entre guillemets au monde professionnel en jouant N1 la première année et ensuite les 2 autres années j'ai joué en Ligue 2. Et puis suite à ça, ça s'est super bien passé. J'ai signé mon premier contrat professionnel en Ligue 2 au BCTM, à la Tronche-Mélan, où j'ai fait 1 année et demie. Donc du coup, et là où je suis partie aux États-Unis, là au milieu de saison, parce qu'en fait l'été dernier, j'ai été sélectionnée pour faire un tournoi à Indiana qui s'appelle le camp Basketball Without Border. Et en fait, c'est un tournoi où il y a différents coachs de D1 qui nous regardent, etc. Et nous, on joue. Donc, ça s'est bien passé pour moi. Et c'est là que, justement, le Mississippi State m'a repéré. Et ensuite, j'ai eu une offre de leur part. Et voilà, j'ai pris l'initiative et la décision d'aller chez eux.
Et tu le disais dans ce CV très complet. C'est une affaire de famille, Mélissa, il y a le frère, il y a les parents, est-ce que tu avais le choix? Est-ce que le basket c'était une évidence?
Ah oui, bien sûr, j'avais le choix, bien sûr. J'ai fait d'autres sports que le basket aussi. J'ai fait de la danse contemporaine et du judo. Donc rien à voir, mais oui, non, c'était pas juste une obligation d'être basketteur, mais oui, c'est vrai que je suis dans une famille de basketteurs, avec mon frère qui joue actuellement en Espagne, en professionnel. Et mes parents qui ont joué aussi à Aisnay pour le plaisir.
Il y a seulement donc, 2 ans d'écart. Exactement, il y a seulement 2 ans d'écart, Mélissa. Est-ce que c'était un peu entre frères et sœurs une compétition? Il y avait de l'émulation? Comment ça se passait? Ça se tire un peu la bourre avec Kylian?
Pas forcément. Bon, forcément, on se pique un petit peu de temps en temps, mais on est assez fusionnel dans le sens où on se donne beaucoup de conseils, on est très fiers l'un de l'autre à chaque fois qu'il se passe quelque chose, on est les premiers à regarder nos matchs. C'est plutôt mon, on va dire, coéquipier plutôt que ma concurrence. donc non, vraiment, on a une relation très saine et c'est bien parce que du coup, en fait, on se comprend quand on parle de basket, quoi. Donc c'est cool aussi.
Tu le disais, Kylian, il vit en Espagne. Toi, tu es passé par Paris, par Grenoble, maintenant les États-Unis. Comment on gère ça quand on est une famille très soudée? Comment on gère l'éloignement, Mélissa?
Alors, pour ma part, ça a été parce que, du coup, dès l'âge de 12 ans, je suis partie au Pôle Espoir, donc c'est déjà un internat assez jeune. Même si je rentrais le week-end, en fait, petit à petit, plus j'avançais dans mon parcours, plus j'étais loin de ma famille. Parce qu'après, directement de l'âge de mes 15 ans, je voyais ma famille tous les mois, tous les 2 mois, parce que j'étais à Paris et eux à La Roche-sur-Yon. Donc, ça n'a jamais été quelque chose de très compliqué pour moi. parce qu'en fait, bah, du coup, je l'ai vécu très jeune, parce que aussi ma famille est très présente, je les ai presque tous les jours, enfin, je les ai tous les jours au téléphone. Ils sont très impliqués aussi dans mon parcours, c'est les premiers à regarder mes matchs, en fait, ils sont pas là physiquement, mais ils sont là avec moi, donc ça change, entre guillemets, rien, même si bah, parfois ils me manquent, mais ils sont quand même présents, donc c'est comme s'ils étaient avec moi, donc ça va.
Ouais, pour eux, c'est pas facile, hein, mine de rien, quand il y a les deux enfants qui partent, en plus, dans des directions opposées, je suppose que... Heureusement qu'il y a les visios maintenant.
Exactement, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr que c'est compliqué. Après, ils voient qu'on est épanoui là où on est, dans ce qu'on fait. Donc, je pense que aussi, c'est rassurant pour eux.
Grosse force de caractère quand même, Mélissa, parce qu'on a l'impression à chaque fois, quand on regarde ton parcours, que l'adaptation à Paris, à Grenoble, aux États-Unis, à chaque fois, on a l'impression que l'adaptation est presque éclair, en fait.
Oui. C'est vrai que j'arrive à m'adapter assez facilement, même si bah, là, le... France-États-Unis est vraiment, 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 vraiment différent. Mais en fait, je sais ce que je veux et je sais où je veux aller. Alors, je sais que je dois passer par ça et qu'en fait, l'adaptement de chaque situation, au final, c'est juste, comment expliquer, l'histoire d'une basketteuse, en fait. À chaque fois, par exemple, quand une saison finit, nouvelle équipe, nouveau staff, en fait, c'est tout le temps ça chaque année, donc à force, ça devient normal.
Comme tu voulais absolument être basketteuse très jeune, est-ce que ça pousse du coup à être encore meilleure au cours d'anglais? Parce qu'on le sait, même en Betclic Elite, même en Ligue Boulangère chez les filles, les coachs, la plupart du temps, ils parlent anglais. Donc quand on est jeune, si on veut être basketteur, forcément, il faut se dire « mince, à l'école, faut pas que je sois mauvais dans les cours d'anglais ».
Alors, c'est très drôle parce que je suis très nulle en anglais.
Ah ouais.
je suis très nulle en anglais. Honnêtement, je suis venue ici avec aucune base. Aucune base. Je ne parlais pas du tout anglais. Donc non, ce serait cruauté de ma part de dire qu'il faut être à fond sur les cours d'anglais parce que je ne l'étais pas du tout. Mais du coup, en fait, là, j'ai des cours particuliers que d'anglais avec un prof pour pouvoir évoluer au fur et à mesure. Mais oui, c'est vrai que par exemple en Ligue 2, en fait, on est avec des étrangères. Moi, pour ma part, j'avais une américaine et une portugaise, donc qui ne parlent pas français. Après, les entraînements, pour ma part, n'étaient pas forcément en anglais. Mais je sais que dans d'autres clubs, notamment en Ligue, c'est presque constamment en anglais, clairement. Donc oui, forcément, plus tôt on apprend, mieux c'est, ça c'est sûr. Et je regrette de ne pas l'avoir fait. Je regrette.
Donc on va pas faire la suite de l'interview en anglais, Mélissa, on va continuer en français. Justement, en parlant de la France, avant d'aborder le côté US, Mélissa, il y a quand même un fait marquant dans ta jeune carrière, c'est cette médaille d'or avec l'équipe de France. Ça, je suppose que c'est un moment déjà important de ta vie et de ta carrière. Tu peux nous raconter un petit peu, c'était au championnat d'Europe avec les Bleus.
Exactement, j'ai eu ma première médaille en U16 à Matosinhos, donc ma première campagne vraiment officielle, première médaille, premier tout au final, et à part incroyable, j'ai aucun mot qui me vient en tête, juste ne serait-ce que déjà porter le maillot avec mon nom de famille derrière, porter le maillot France, jouer pour la France, faire l'hymne national, tout. J'en garde que des bons souvenirs et en plus il y a toujours cette concurrence entre l'Espagne et la France, donc avoir battu l'Espagne, c'est forcément quelque chose en plus, ça rajoute ce truc, donc ouais, c'est sûr, j'en garde que du positif, et en plus c'est au Portugal à Matosinhos, et donc après avec l'U18 j'ai eu aussi la chance d'être encore sélectionnée et on a aussi eu une médaille d'or encore une fois à Matosinhos contre l'Espagne encore une fois. Donc, incroyable, quoi. De toute façon, dès qu'on porte le maillot de son pays, c'est forcément incroyable, quoi, qu'il arrive encore plus avec une médaille. Donc, oui, j'en garde que du positif et c'est vraiment un très, très, très bon souvenir que garde en tête.
Et ça a forcément aidé, puisque tu l'as dit tout à l'heure, un an plus tard, tu es invité à un camp d'été, Without Borders, le camp de la WNBA. C'est un premier pas vers le rêve américain que tu vas concrétiser plus tard. Vous êtes là aussi allé en finale. Cette fois, de mémoire, c'est une défaite. Mais clairement, c'est là aussi que tu as été remarqué que la première pierre a été posée, en fait.
Oui, forcément, en fait, toutes les universités où les coachs regardent tout ce qui est championnat d'Europe, toutes les campagnes, en fait, surtout les Européens. Donc, forcément, c'est là qu'on commence déjà à mettre un regard sur nous. Donc, oui, c'est sûr que ça m'a ouvert des portes, oui, et puis une visibilité aussi, forcément.
En dehors d'être allé loin dans la compétition, tu as pu en plus un peu toucher du doigt le haut niveau, puisque tu as pu voir notamment une de tes idoles, Gabby Williams, c'est ça, Mélissa, lors d'un match des joueuses WNBA.
Oui, exactement. En fait, c'était le All-Star Game. C'était le All-Star Game, donc en fait, on avait toutes les meilleures joueuses de WNBA. Donc ils s'affrontaient, donc elles formaient chacune une équipe et elles s'affrontaient. C'est en fait c'est du show, c'est pas vraiment un match du championnat, c'est vraiment du show. Et enfin, j'étais comme une enfant, hein. Forcément j'ai toutes les joueuses que je regarde en face de moi, toutes. Et en plus Gabby Williams, forcément une Française, donc incroyable vraiment.
C'est ça l'objectif aussi, c'est de faire comme Marine Joannès, comme Gabby Williams chez les filles, comme évidemment, chez les garçons, on pense tout de suite à Victor Wembanyama, mais c'est d'essayer d'avoir une trajectoire en WNBA.
Forcément. Après, je vis au jour le jour. Mon seul but, c'est juste d'être meilleur jour après jour. Et je préfère pas me donner un objectif, je préfère pas me donner de limites. Simplement, juste me dire que j'ai été meilleur qu'hier, c'est tout. Regardez ces gens-là, ça donne envie, ça, c'est sûr.
Et quoi qu'il arrive, l'expérience sera incroyable. Mélissa, parce qu'on connaît, pour ceux qui ont eu la chance d'aller voir un peu ce qui se passe aux États-Unis et de voir les universités, les installations, la mentalité, la préparation, tout ça, c'est forcément une expérience incroyable. Tu peux nous raconter un petit peu, là, quand on fait le grand saut, comment ça se passe, tout simplement, décrire un petit peu le sport universitaire américain, parce que ça n'a rien à voir avec la France.
Ah non, exactement. Bah, déjà, ne serait-ce que, même sans parler de basket, juste les infrastructures, c'est complètement différent. Je me souviens que lors de ma visite, j'étais
okay.
J'étais époustouflée par les infrastructures, que ça soit la salle, parce que déjà on a une salle de basket pour le match et une salle d'entraînement, que ça soit la salle de muscu, le vestiaire. Je pourrais t'envoyer des images si tu veux aussi, j'ai plein de photos. Donc voilà, tout ça en fait, je me suis dit que progresser en venant ici, parce qu'en fait on a la salle 24 heures sur 24, on a une machine à shoot, on peut aller à la musculation quand on veut, donc en fait faut être autonome, mais en fait tu peux tout le temps travailler quand tu veux hors entraînement. Et ça, je me suis dit trop bien, parce que en fait déjà ça va m'apprendre à travailler seule, à me connaître encore mieux, savoir ce que je dois travailler moi individuellement aussi, et en fait pas d'excuse quoi, la salle est tout le temps ouverte, donc tout le temps à la salle. Et donc déjà ça. Sinon après, je dirais, lors de mon premier entraînement, ce que j'ai trouvé différent de la France, c'est la communication sur le terrain. Il y a tout le temps de la communication, que ce soit pour des petits détails, les joueuses parlent tout le temps. L'intensité et l'investissement. Je veux dire, une coéquipière qui marque, t'as vraiment toute l'équipe qui crie comme si elle avait... tout le monde est vraiment à fond. Et voilà, la communication, l'intensité défensive. Parce que je ne savais pas à quoi m'attendre. Moi, j'étais aussi beaucoup dans les trucs de... c'est beaucoup de 1 contre 1. La défense, je ne sais pas forcément ce que ça donne. La défense est... très solide et très très dur, très dur, et je m'attendais pas autant justement. Donc voilà, dans une première impression superbe, premier match aussi, l'exigence, voilà.
Combien de coachs, Mélissa? Parce qu'en France, souvent, déjà, faut qu'il y ait basket à la fac, et quand il y a basket, généralement, il y a un coach. Là, je suppose qu'il y a un staff aussi plus grand.
Ah oui. Alors déjà, juste en coach, attends, je compte 5, 6, 7. On a j'ai à peu près 7-8 coachs. Donc on a vraiment le coach principal qui est Sam Prussel. Et ensuite, on a donc du coup les assistants, les coachs, enfin, ils sont 7. Et ensuite, ça, à côté, on a des managers. Donc, ils sont là pour prendre nos rebonds, pour si on a besoin d'aide, etc. Ils sont toujours là pour nous. Par exemple, moi, je sais que quand je finis les cours, je suis toujours un petit peu en retard à l'entraînement parce que mes cours finissent en même temps que le début d'entraînement. Donc, ils viennent me chercher. Si j'ai besoin de quelque chose, ils sont là pour moi, etc. Donc, dans les managers, il y a à peu près... Il y en a au moins 8. Donc je pense que dans le staff, ils sont à peu près 16. C'est presque autant que les joueuses, en fait. C'est presque autant que les joueuses. Et à côté de ça aussi, ce qui m'a marqué, c'est qu'on s'entraîne contre des garçons tous les jours. Donc, c'est-à-dire qu'en France, par exemple, moi en pro, quand on faisait, par exemple, du demi-terrain, on jouait donc joueuse contre joueuse, on était 5 dans l'équipe et on jouait. Et ben nous, en fait, c'est des garçons et on joue contre eux. Pour que ça soit plus physique, plus dur, plus impactant et que bah, pendant les matchs, ça paraisse plus facile, entre guillemets. Moins compliqué. Donc ça aussi, c'est bien.
Donc tu vas pouvoir jouer contre Kylian cet été et lui mettre une raclée, du coup. Mais Lisa, justement... Justement, les matchs, raconte-nous aussi l'ambiance des matchs, parce qu'on sait qu'il y a une vraie culture des matchs universitaires aux États-Unis et puis une vraie fierté d'appartenir à sa fac, donc de venir voir les copains, même si on n'aime pas spécialement le basket.
C'est clair. Bah, alors déjà, moi, il y a deux Français ici, deux tennismans. Donc déjà, ça fait du bien aussi un peu de parler français. mais oui, par exemple, pour les matchs, on a une fanfare. On appelle des fans. Des fans qui sont tout le temps là pour nous, qui sont tout le temps là à la fin des matchs pour demander des signatures, des photos, des trucs comme ça. Et c'est plein, quoi. C'est plein. La salle, elle peut accueillir 10 000 spectateurs. Donc c'est déjà une très 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 grande salle. Après, il n'y a pas 10 000 non plus, mais oui, il y a quand même du monde derrière nous. On est quand même beaucoup soutenus, beaucoup encouragés pendant les matchs. Qu'on perde ou qu'on gagne, donc ça me change vraiment aussi de jouer dans une salle aussi grande. Et voilà. Et que ça soit les autres sports, par exemple, j'ai assisté à mon premier match de golf, de baseball. Et par exemple aussi ici, il y a le football américain qui est beaucoup, qui est très célèbre ici. Donc tout ça, c'est des sports que j'avais jamais vus aussi. Donc ouais, non, intéressant de découvrir tout ça. En fait, au final, je découvre une nouvelle culture.
Et est-ce que tu as eu le temps un peu de visiter l'état aussi dans lequel tu vis maintenant ou ça a été consacré beaucoup aux sportifs jusqu'à présent?
Que au sport, clairement. Parce que déjà, pour l'instant, j'essaie déjà de m'adapter à le basket, etc., au train de vie, l'école. Je reprends l'école alors que ça faisait 2 années que j'ai eu mon bac. Ensuite, j'ai travaillé à distanciel sur le CNED. Donc déjà pendant 1 an, je ne suis pas allée à l'école. Et ensuite, l'autre année, je me suis consacrée que aux cours d'anglais. Donc pas vraiment des cours. Donc là, déjà, retourner à l'école tous les matins à 8h, enchaîner avec le basket, la musculation. Bah, en fait, je prends pas forcément le temps. Mais je suis aussi très fatiguée du fait de découvrir tout ça. Que pour l'instant, non, j'ai pas encore eu l'occasion de sortir. Mais je vais... dans les prochains jours, je souhaite plus visiter, plus découvrir quoi, la culture en elle-même, le pays, etc.
Et du coup, tu as des cours de quoi, Mélissa? Raconte-moi un peu des cours classiques ou tu as déjà une spécialité dans cette université?
Alors non, en fait, pour l'instant, moi, mon objectif et l'objectif des coachs, c'est que je parle couramment la langue, que je sois beaucoup plus à l'aise, que ça soit en dehors que sur le terrain pour déjà gagner du temps. Et que dans la compréhension ça soit plus rapide. Donc du coup j'ai que des cours d'anglais, j'ai un prof particulier tous les jours, donc pendant 3 heures par jour. La première heure j'ai écriture, donc j'apprends tout ce qui est conjugaison, tout ce qui est rédaction, etc. en anglais. Ensuite c'est plutôt du dialogue, donc on va plus parler, plus échanger, plus avoir des conversations sur la vie, sur mon aura, me présenter, ma famille, etc. Et ensuite, c'est plutôt tout ce qui est compréhension un peu orale, compréhension des choses. C'est un peu la même chose que l'autre cours avant, mais là, ça va être plus être un texte. Et par exemple, je vais avoir des questions, il faut que je comprenne le texte, quels sont les mots-clés dans le texte, etc.
Ouais, tu dois bien dormir le soir.
Ouais. Ouais. Surtout qu'en fait, c'est les profs sont américains, forcément. Donc, du coup, quand je comprends pas, je peux pas traduire. Je dois vraiment me débrouiller pour comprendre, en fait. Donc, c'est bien, mais du coup, ça me force à être tout le temps concentrée, Pareil aux entraînements. En anglais, forcément. Donc, ça va parce qu'il y a certains mots qu'on utilise en France, qu'on ne se rend pas forcément compte, mais qui sont déjà utilisés ici. Mais ça me demande une concentration énorme que je n'avais pas avant. Et du coup, forcément, quand je rentre le soir, je dors bien. Je dors bien.
Tu m'étonnes.
Ça, c'est sûr.
Est-ce qu'on t'appelle la Frenchie? Est-ce que le fait que les Français, en ce moment, à l'image. On est obligé de parler de lui, mais de Victor Wembanyama qui est en train de tout casser en NBA. Est-ce que du coup ça donne une petite réputation? Est-ce qu'on t'en parle? Est-ce que le fait d'être française, ça amène une petite notoriété déjà?
Alors lui, on m'appelle la Frenchie, je pense que c'est un peu la hype des Français ici. C'est sûr. Forcément, Victor Wembanyama, c'est un peu la référence des Français, clairement. On m'a beaucoup parlé de lui et on m'a beaucoup parlé de Marie-Joannès aussi. Je sais qu'elle est très populaire ici. Déjà tout court le fait d'être étranger, déjà pour eux, je ne parle pas forcément du basket, mais même en dehors, ils sont déjà très contents et c'est une nouvelle culture pour eux. Donc ils sont un peu contents quoi, d'accueillir, de pouvoir accueillir des nouvelles personnes, du nouveau monde quoi.
Les objectifs, Mélissa, du côté du Mississippi avec les State Bulldogs, est-ce que vous avez votre coach vous a mis des objectifs clairs d'un point de vue collectif et puis toi d'un point de vue personnel?
Alors, c'est un peu compliqué pour moi de répondre à cette question-là parce que ça fait seulement un mois que je suis là. Donc, pour l'instant, pour moi, individuellement, on me demande juste en fait d'être moi-même. Juste de m'adapter, de ne pas mettre de pression. On ne me demande pas d'être performante, on ne me demande pas de quoi que ce soit. Juste d'essayer de faire mon mieux chaque jour, de retenir ce qu'on me dit. Et voilà, en fait, c'est tout. On ne met pas du tout de pression. De toute façon, il n'y a pas de raison que j'en ai. Le seul but, en fait, c'est que je m'adapte pour que l'année prochaine, je gagne du temps en fait, sur l'année prochaine, petit à petit, c'est tout. C'est-à-dire que mon temps de jeu il est hyper varié. Là en fait c'est vraiment que l'intégration. C'est vraiment que l'intégration de la découverte dans tout. Et puis voilà. Et sinon, question collective, forcément c'est de faire la marche madness. Après, là on a eu quand même pas mal de défaites. Donc à voir comment ça se passe pour la suite.
Step by step, comme on dit.
On a eu deux points. Exactement, step by step. Step by step, voilà. C'est ça.
Bon, la dernière question, Mélissa, pour te laisser un petit peu tranquille, parce que tu n'as pas beaucoup le temps de souffler, donc on ne va pas en plus te prendre du temps, mais tu vas avoir 20 ans, là, dans quelques jours, le 1er mars. Alors déjà, comment on fait ces 20 ans loin de la famille, loin du frère, loin des parents, des amis, ça va aller?
Oui, ça va aller parce que, comme je disais, j'ai l'habitude de pas être forcément là dans les jours importants comme cela, comme l'anniversaire. Mais je les connais, je sais qu'ils vont m'appeler, je sais qu'ils vont être quand même présents pour moi et je sais que je vais rattraper ça cet été en rentrant. Donc, c'est pas grave, je ne m'inquiète pas. Et en plus, on a match le 1er mars, donc ça serait cool comme cadeau de gagner. Ça serait cool. Mais oui, non, je sais qu'ils sont quand même là, donc il n'y a pas de souci.
T'as pas eu de rookie challenge là, tu dois pas apporter les donuts ou les choses comme ça comme on voit parfois en WNBA ou en NBA, y a pas eu de petit bizutage de rookie?
Pas pour l'instant, mais j'espère que ça restera comme ça.
Bon, en tout cas, merci beaucoup Mélissa d'avoir pris du temps.
Avec plaisir, pas de soucis.
Et si tu dois passer un petit message aux Vendéens et aux Vendéennes évidemment.
Dire que je joue toujours avec eux, ils font le numéro 85 sur moi et ça changera pas. J'oublie pas d'où je viens et voilà, j'espère qu'ils seront de tout cœur avec moi aussi.
Merci Mélissa.
Cet épisode 4 de Basket 85 est désormais terminé. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager et à commenter cette émission sur les réseaux sociaux et le site du podcast Vendéen. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 5 avec une autre invitée de prestige. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite une très bonne journée.
Basket 85, le seul podcast consacré à l'actu du basket en Vendée, en partenariat avec le comité départemental de Vendée Basketball.